Coulisses politiques avec Henri Vernet.
La guerre au Moyen-Orient, faut-il craindre une forte hausse des prix et une hausse de la précarité en France? La Banque Centrale Européenne esquisse un scénario d'inflation élevée. L'enrichissement de l'énergie, tout comme la perturbation des routes du commerce international, auront des effets. Seulement voilà, leur ampleur dépend de la durée du conflit. Mais même avant cette guerre, une question se posait. Quel bilan pour Emmanuel Macron en matière de lutte contre la pauvreté? 8 ans après son arrivée à l'Élysée, la situation sociale s'est durcie. 9 800 000 personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. Cela représente 15,4% de la population, un niveau inédit depuis près de 30 ans. Dans le même temps, le chômage a nettement reculé et des politiques sociales ont été mises en œuvre, notamment le plan pauvreté. On s'en souvient, c'était en 2018, un plan doté de 8 500 millions d'euros ou encore les aides massives déployées pendant la crise du Covid. Mais depuis la fin de ces dispositifs exceptionnels, la hausse des prix, le logement, l'énergie ou encore la précarité de l'emploi ont fragilisé une partie des Français. En 2023, 650 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. Alors comment lire ce bilan? Faut-il y voir un échec des politiques publiques, les effets de crises économiques successives ou la transformation profonde de la pauvreté en France? Bonjour, je suis François-Xavier de Calonne. Bienvenue dans Coulisses politiques avec Henri Vernet. Bonjour Henri Vernet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chroniqueur politique, écrivain, 3 intervenants dans cette émission. Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Christophe Robert, le délégué général de la Fondation pour le logement et l'économiste Christian Saint-Étienne. La lutte contre la pauvreté, le principal échec d'Emmanuel Macron, point d'interrogation, c'est le thème de votre nouvel épisode. Mais avant tout, Henri Vernet, quelles peuvent être les conséquences économiques et sociales liées à cette guerre ? En ce moment, au Moyen-Orient, les conséquences, bien entendu, en France.
Les conséquences, déjà au prix à la pompe, donc sur le porte-monnaie directement des Français, puisque l'énergie est renchérie, et notamment, on voit bien la flambée qu'il y a pu y avoir du prix à la fois du gazoil, la leur, et de l'essence classique dans les stations-service, alors avec des différences selon que vous alliez dans les stations-service, j'allais dire, assez classiques, ou dans les grands, chez les grands distributeurs, les grandes surfaces commerciales. On voit d'ailleurs que tout cela se fait un peu dans un certain désordre. Le résultat, malgré... Alors, il y a des interventions du gouvernement, notamment la fameuse action sur les réserves stratégiques, qui était censée alléger un petit peu la pression notamment sur les prix, en jouant sur une quantité plus importante de pétrole, donc en débloquant 400 millions de barils sur les 2 milliards de réserves de stock que la France peut avoir, ce qu'on appelle donc les réserves stratégiques. L'idée, c'était d'alléger donc un petit peu ça, de donner du temps aux grandes sociétés, distributeurs et raffineries de se réapprovisionner. Mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment donné de résultats très patents.
Avec, on peut le dire aussi, des profiteurs, des personnes qui profitent de cette crise en augmentant de manière artificielle les prix.
Oui, dans la mesure où le prix à la pompe, dans une certaine mesure, il y a une marge de liberté. Donc pour le contraindre, eh bien, il faut imposer. Alors ce qu'a fait le gouvernement, notamment Roland Lescure, ministre de l'économie, avait annoncé toute une série de contrôles, 500 opérations coup de poing ou presque, de contrôles chez des pompistes. Je crois que sur une moitié en fin de première semaine, une moitié de la cible avait déjà été visitée, inspectée, et il y avait de l'ordre d'une dizaine de contraventions qui avaient été émises. Mais enfin, là, on est plus dans le spectaculaire, à la fois spectaculaire parce que c'est annoncé à grand renfort, et en même temps dans l'homéopathique parce que ce n'est qu'un moindre aspect du problème. Et puis vous avez aussi ceux qui se font un petit peu de publicité à travers cela. Par exemple, Michel-Édouard Leclerc, avec ses fameux centres commerciaux, qui a annoncé, qui s'est engagé à avoir dans les stations, dans les points de vente qui dépendent de son groupe, une baisse pour les consommateurs. Parce que les transports, cette partie-là, ça pèse lourd dans le budget des ménages et forcément des plus modestes. C'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Et comme on parle de pauvreté, on verra bien que dans ces problèmes problème de précarité, de pauvreté, les dépenses contraintes sont un véritable poids pour les ménages et les plus défavorisés.
Sachant que le discours de Michel-Édouard Leclerc est aussi un discours politique, Michel-Édouard Leclerc qui n'exclut pas de se présenter à la présidentielle, mais il le dit, c'est aussi pour faire la promotion de ses enseignes.
Ah oui, non, mais il est clair là-dessus. Vous avez raison de rappeler sa petite... Alors, pour l'instant, elle est assez cachée. Est-ce qu'elle se concrétisera un jour? Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est une personnalité, oui, qui a aussi des pensées, des approches peut-être un peu politiques.
Alors, 8 ans après 2017, comment peut-on caractériser le bilan d'Emmanuel Macron sur la pauvreté? Un peu plus de 8 ans, même. Insuffisant, inabouti, ou alors... contrarié par les différentes crises, même si on se souvient que chaque président a été contrarié par les crises.
Voilà, c'est ce que j'allais vous répondre, hein, parce que ça, c'est un peu l'alibi un peu constant des présidents français en fin de mandat, c'est de dire « Ah oui, mais j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu, tout ce que j'avais promis, tout ce sur quoi je m'étais engagé pour réformer le pays, parce qu'il y a eu tels événements. Bah, » On se souvient, Nicolas Sarkozy, c'était la crise des subprimes, qui avait dégénéré en grande crise financière à travers toute l'Europe, et donc qui avait contraint les finances publiques, d'où les réformes. Bon, ça, c'était Nicolas Sarkozy. François Hollande, lui, c'est vrai qu'il avait eu des vagues de terrorisme. Hein, il avait dû faire face à cela. Mais enfin, quand je dis alibi, c'est à dessein, parce que il y a une tendance à s'abriter derrière. Alors, bien sûr que dans le mandat, dans les deux mandats d'Emmanuel Macron, il y a eu des imprévus, d'énormes imprévus. Bah, à commencer par la pandémie de Covid. Hein, ça, c'était du jamais vu dans l'ère moderne. Et puis, la succession des guerres, à commencer par la guerre en Ukraine, qui elle avait également provoqué elle aussi une grave crise énergétique et donc de la pénurie et des mesures exceptionnelles là-dessus. Mais pour en revenir donc à son programme, à ce plan pauvreté, vous l'avez rappelé, qui avait été annoncé hein, avec une certaine ambition en 2018, qu'est-ce qu'il en reste 6 ans plus tard? Est-ce que c'est inachevé, inabouti? C'est clairement inabouti.
On s'en souvient que ce plan avait été bien accueilli par les différentes associations. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit aujourd'hui, en 2026, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice.
Il s'agissait à l'époque, si l'on se souvient bien, à la fois d'attaquer ce qui provoquait la pauvreté à la racine, d'être dans la construction d'un climat de confiance avec les personnes concernées, avec le monde associatif qui avait été très associé à l'élaboration de ces politiques. On est loin de tout cela aujourd'hui, hélas. Et je crois que ce qui est passé par là, c'est une grande difficulté, une incapacité à répondre à quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire l'extension de la pauvreté, des dysfonctionnements de politique publique, des conditions de rémunération qui posent problème. Et plutôt que d'essayer de reconstruire cette solidarité, s'est installée une tentation de stigmatisation et qui est quand même très éloignée de ce qui avait pu être évoqué il y a maintenant une dizaine d'années. Et l'urgence pour nous est bien que l'on se remette dans cette vision qui est pour nous une réalité que je vois dans toutes les associations, qui est que la solidarité est ce qui tient des pans entiers du territoire. Il faut repenser cela parce que c'est vrai que vous avez toute une série de gens dans ce pays qui payent des impôts, qui travaillent et qui se demandent pourquoi ils le font. Donc il faut qu'ils aient la certitude que tout ça sert réellement aux personnes en difficulté. Il faut reconstruire tout cela et cesser encore une fois de déconstruire.
Et il faut souligner aussi que les associations n'ont jamais vu autant de personnes recourir à leur aide. Et justement, est-ce que ce sujet, le sujet de la pauvreté, a progressivement disparu de l'agenda politique, Henri Vernet?
En tout cas, il est clairement passé au second plan, à l'arrière-plan. C'est vrai que ça paraît plus une priorité. Il faut dire aussi que sont réapparus, par exemple, quand en 2018, il lance ce plan, ça fait déjà un an qu'il est à l'Élysée. En revanche, il y a une politique à ce moment-là qui a quand même commencé à marcher. C'est la politique de l'offre qui était censée aller en direction des entreprises et favoriser l'emploi. Et le fait est que assez vite, dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'emploi repart. C'est-à-dire que la fatalité de la courbe du chômage qui s'accroissait mois après mois, que François Hollande avait promis d'inverser et que finalement il n'aura jamais inversé, et ça aurait été sa malédiction d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui l'empêcheront finalement de pouvoir se représenter. Et bien finalement, celui qui réussira à l'inverser, c'est son successeur, c'est Macron. Il faut aussi s'intéresser, comment dire, dire, à mener sur le chemin de l'emploi les jeunes, hein, qui sont soit un petit peu en rupture de banc parce qu'en rupture de système scolaire, ou qui errent d'une formation à une autre. Donc,
est-ce qu'il a obtenu un certain succès sur cette
oui,
question?
De ce côté-là, oui, parce que justement, une des choses qui vont repartir, c'est l'emploi des jeunes. C'est vrai, notamment, il y a eu un gros effort de fait sur l'apprentissage, qui était toujours un peu un parent pauvre en France, alors que c'est un système qui marche bien dans les pays que j'ai cités, qui marche bien en Allemagne. Et donc, c'est vrai que se sont développés, en tout cas, ont été vraiment davantage utilisés, des formules telles que l'apprentissage, telles que l'alternance, et donc, qui permettaient réellement de créer cette culture de l'emploi. Alors, évidemment, à côté de ça, il le fait avec son style, qui peut être désastreux. C'est vrai qu'en France, on a, dans notre système de protection, dans notre État-providence, on a tout un tas de prestations sociales, de minima sociaux. Donc lui, quand il présente ses différentes réformes sur ce sujet, il va parler de pognon de dingue. On dépense un pognon de dingue et on ne voit pas de changement. Évidemment que cette formule, qui en plus assez curieusement avait été filmée, c'était une réunion
on s'en souvient,
analysée,
autour de la table, il y avait plusieurs ministres.
Il était avec ses collaborateurs et des ministres. Il est là, les manches retroussées, et il emploie cette formule. Et surtout, ses communicants la mettent, la font circuler sur les réseaux sociaux. Et donc, évidemment, ce que le grand public retient, c'est le message un petit peu inverse d'un plan qui veut s'intéresser aux gens. Donc ça va brouiller l'image, finalement. Mais il y avait quand même cette idée-là, donc cette idée de l'investissement social. Et c'est vrai que tout ça, au fil des ans, oui, c'est passé au second plan, parce qu'il y a les urgences dont on a parlé, qui sont venues, qui occupaient le devant de la scène, la pandémie
la
de Covid,
le quoi qu'il en coûte, qui était nécessaire pendant la période du Covid. Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, souligne cette nécessité et il évoque aussi, selon son propos, des loupés.
Ça a été une mobilisation remarquable de la part des pouvoirs publics, relayée par les associations. Pendant la période du Covid, le quoi qu'il en coûte a été la démonstration qu'à un moment donné, nous savions collectivement agir pour prendre en charge les personnes qui étaient à la rue, pour soutenir les ménages les plus fragiles. Et ce qui a été loupé, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, c'est la sortie. C'est-à-dire qu'à la sortie du Covid, et nous y sommes encore, il y a eu cette volonté dont je partage l'objectif au vu de l'ampleur de la dette et du déficit public, qui est de réduire la dette et le déficit. Mais cela a porté également sur les personnes, les ménages les plus fragiles, et d'ailleurs aussi sur les associations qui les accompagnent. Et cela me semble particulièrement problématique.
Henri Vernet, vous avez rappelé tout à l'heure la baisse du chômage, peu de temps après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le fameux « quoi qu'il en coûte », la suppression de la taxe d'habitation, la suppression également de la redevance télé, cela touche les classes moyennes. On a le sentiment qu'il n'y a pas eu, si je puis dire, de gratitude de la part de la population française.
Alors ça, c'est un paradoxe qui est relevé par les sondeurs, en effet. C'est vrai. Et notamment, c'est patent sur la question de l'emploi, c'est la question du chômage. Oui. C'est vrai que autant elle avait pénalisé les prédécesseurs, et singulièrement, comme je l'ai rappelé, François Hollande, les prédécesseurs de Macron, autant là, c'est vrai qu'il n'est pas crédité d'avoir fait baisser cette courbe, laquelle d'ailleurs, il faut bien le dire, en ce moment, le chômage depuis quelques mois, il remonte.
Augmente,
et sans
absolument.
Doute que la crise actuelle liée à la guerre au Proche-Orient ne va rien arranger. Mais c'est vrai qu'il n'en est pas crédité. Alors pourquoi? Parce que finalement, vous savez, tout le monde est un peu journaliste, finalement. C'est-à-dire qu'on regarde plutôt les choses qui ne vont pas. Et puis aussi, mais je pense que ça reviendra dans d'autres sujets, il y a aussi le fait que bien des emplois qui ont été créés sont quand même des emplois parfois assez précaires, beaucoup d'emplois à mi-temps ou en tout cas à temps partiel.
Ça, c'est une réalité, ces emplois à temps partiel, ces personnes qui, à la fin du mois, ne touchent pas le SMIC mensuel, car elles sont payées au SMIC horaire et du coup gagnent moins que le SMIC. C'est quelque chose qui est parfois méconnu, mais c'est une réalité en France avec l'arrivée, on y reviendra, mais des fameux travailleurs pauvres.
Travailleurs pauvres, absolument. Voilà, c'est une notion qui apparaît à ce moment-là. Il ne faut pas noircir le tableau. Il y a aussi des emplois tout à fait valorisants, bien rémunérés, vraiment dans les clous. Mais il y a en effet ce phénomène qui vraiment apparaît et se répand, les travailleurs travailleurs pauvres, les intellos précaires aussi, ça touche beaucoup les étudiants diplômés. Pendant longtemps, on pensait que ben voilà, votre enfant, il est étudiant, il est diplômé, il trouvera un emploi et il pourra avancer dans la vie. Et ben non, maintenant on a des travailleurs pauvres et des intellos précaires, hein, comme on appelle cela. Et donc c'est finalement ça occulte la réussite sur le chômage.
Sur le quoi qu'il en coûte, après la crise du Covid-19, ou même pendant cette crise, l'avis d'un deuxième expert, l'économiste Christian Saint-Étienne.
Le quoi qu'il en coûte, a posteriori, n'apparaît pas comme un succès. La France a énormément dépensé, effectivement, plusieurs centaines de milliards d'euros pour essayer de compenser les effets de la crise du Covid, beaucoup plus que dans les autres pays, pour un résultat moindre, finalement. Donc on se retrouve dans un pays qui, en termes relatifs, s'est appauvri, c'est-à-dire que la progression de l'activité économique et du pouvoir d'achat a été moindre en France que la moyenne de la zone euro. Donc il y a un appauvrissement relatif de la population française sur les dernières années. Et d'une certaine façon, Emmanuel Macron va laisser un pays beaucoup plus endetté, économiquement et politiquement affaibli, puisque la voix de la France est pratiquement négligée maintenant au niveau européen, l'Allemagne ayant totalement pris les commandes de la politique économique, de la politique commerciale de l'Europe, en liaison avec la Commission européenne. Donc la situation de la pauvreté n'est pas très bonne, en dépit du fait qu'il y ait eu la création sur les deux quinquennats d'approximativement 1 million d'emplois, mais beaucoup de ces emplois sont des emplois relativement mal payés, ce qui explique d'ailleurs l'appauvrissement relatif global de la France par rapport aux pays avec lesquels nous sommes en compétition au sein de la zone euro. Donc le bilan global est très loin de ce qu'on pouvait imaginer en 2017, en dépit des premières mesures prises par le président qui étaient plutôt favorables à l'activité. Mais ensuite, la succession de crises n'a pas été très bien gérée.
L'économiste Christian Saint-Étienne qui souligne ce paradoxe, le chômage qui a reculé, même s'il augmente désormais, mais il a reculé au début du mandat d'Emmanuel Macron, et alors que le chômage reculait, la pauvreté progressait. Est-ce le signe, Henri Vernet, que le travail ne protège pas plus suffisamment contre la précarité?
Oui, pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Hein, d'abord, en effet, parce que donc, ces travailleurs pauvres liés tout simplement au fait que les salaires ne sont pas suffisants, que c'est du travail qui est donc dans bien des cas à temps partiel. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. C'est-à-dire que dans notre pays, ça fait désormais plusieurs années, et notamment, en tout cas, depuis 2022, avec la crise inflationniste qui a suivi, enfin, qui a été une des répercussions de la crise énergétique, donc de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et donc de cette guerre qui dure depuis maintenant 4 ans, avec la tension sur l'énergie, dont les pays européens, France comprise, même si elle est dans un cadre toujours un petit peu plus protégé parce qu'une bonne partie de notre énergie, de notre électricité vient du nucléaire, mais quand même, on en subit nous aussi les contre-coups. Donc déjà, on amortissait à peine le choc de l'Ukraine, que désormais, il y a celui du Proche-Orient que j'évoquais tout à l'heure. Mais, et donc tout ça, ça pèse donc sur l'inflation. L'inflation, eh ben, elle est notamment ressentie dans les produits de première nécessité. Tout à l'heure, je vous disais que dans ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, il y a une grande partie d'achat, de pouvoir de vivre, hein, comme disent d'ailleurs désormais certains sociologues et certains politologues, pouvoir de vivre plutôt que pouvoir d'achat. Et ben dans ce pouvoir de vivre global, il y a la part des dépenses contraintes, et de plus en plus importante, dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement en premier chef. Or, il y a une vraie difficulté, il y a une vraie crise endémique de logement en France, et ça maintenant, ça fait longtemps et on ne s'y attaque pas réellement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Je rappelle ça puisque nous sommes en période d'élections municipales, donc d'élections locales. Donc il y a cette crise, le renchérissement du logement, des loyers, la difficulté à trouver à se loger. Donc ça, c'est le premier poste. Vous avez évidemment les dépenses de transport, donc ultra sensibles en ce moment dans ce contexte-là. Et puis des dépenses de santé, tout ça, ça frappe. Donc des travailleurs, alors c'est nous, c'est, pourquoi ce sentiment d'avoir davantage de pauvres, enfin, ce sentiment, c'est même
cette réalité,
ça,
absolument.
Hein. Alors, oui, cette réalité. Vous pouvez être touché par la précarité si donc votre logement est trop élevé. Donc, aux travailleurs pauvres s'ajoutent les foyers monoparentaux. Et foyers monoparentaux, pour être très clair, ça veut dire le plus souvent une femme qui élève seule son ou ses enfants. Vous avez les jeunes, donc de plus en plus, et ça, c'est un phénomène réellement qui mine un petit peu notre société, là aussi de manière croissante, donc des jeunes adultes, diplômés ou pas diplômés, et qui se retrouvent en butte à un marché du travail trop difficile, en tout cas, enfin, qui leur est difficilement accessible, et qui se retrouvent dans ces difficultés financières, ou alors même quand ils travaillent, ben, c'est pas suffisamment payé. Toutes ces catégories qui sont donc dépassées par leurs dépenses contraintes, s'y ajoutent aussi les politologues parlent aussi des quartiers difficiles, justement, avec notamment les vagues les plus récentes d'immigration. Bref, tout ça fait qu'on arrive aujourd'hui, en effet, à une population pauvre, précarisée, numériquement très importante.
Quelques éléments, justement, sur le seuil de pauvreté. 1 200 € par mois pour une personne seule après impôt. Cela signifie que toute personne qui vit avec moins d'environ 1 200 € par mois est considérée statistiquement comme pauvre. Alors, cela varie après selon la taille du ménage. Hein. Une personne seule, c'est donc 1 200 €. Un couple sans enfant, 1 800 € et un couple avec deux enfants environ 2 500 €. Il faut savoir que 9 à 10 millions de personnes aujourd'hui vivent sous ce seuil. Sur la question des travailleurs pauvres, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, évoque une pauvreté, mais une pauvreté qui s'enracine en France de manière multiforme.
On a désormais une précarité et une pauvreté qui s'enracinent de manière multiforme. Et j'en suis frappé dans tous mes déplacements un peu partout en France, et je ne vous cache pas que c'est pour moi une grande inquiétude, que de voir des pans entiers de la population et du territoire dans les villes, donc là on parle notamment des quartiers les plus fragiles dans les villes, mais aussi dans les campagnes, qui ont décroché économiquement et socialement. Vous retrouvez là quoi ? Vous retrouvez effectivement des travailleurs et travailleuses pauvres. On en parlait tout à l'heure, c'est un phénomène désormais ancien, mais qui s'amplifie, notamment pour les femmes vivant seules avec des enfants. Et ça, c'est une dimension très particulière et très forte et très inquiétante de la pauvreté et de la précarité. Vous y ajoutez à l'autre, les jeunes. Vous avez de plus en plus de jeunes dans nos associations qui arrivent là et qui sont en grande difficulté, notamment sortant de l'aide sociale à l'enfance, qui souvent cumulent, et c'est ça la particularité dont rendent compte les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux et bénévoles des associations, des problèmes de santé mentale extrêmement lourds, des problèmes d'addiction, dont je vois que vraiment ils sont considérablement présents un peu partout dans le pays et dont on voit les répercussions en termes notamment de trafic. Vous avez à l'opposé sur le plan de l'âge de plus en plus de personnes vieillissantes et notamment des personnes âgées avec des retraites qui ne leur permettent pas notamment de payer des charges de logement, notamment de logement social, qui ont beaucoup augmenté. Et ça, encore une fois, y compris dans les villes et les campagnes. Donc, vous voyez, la préoccupation, c'est que c'est vraiment un phénomène qui grandit numériquement. L'INSEE l'a documenté, plus de 15% de pauvreté. Ça n'avait jamais été aussi élevé depuis 30 ans. Mais sous une forme, de cumul de difficultés qui est aussi la difficulté des associations qui accompagnent ces personnes.
Une question, Henri Vernet, je rappelle que vous êtes journaliste politique. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de central pour les Français. C'est la priorité numéro une. Voilà, absolument. Au-delà même de la sécurité. Pourquoi, tout simplement, il n'y a jamais de manifestation, ou très peu, de la part des citoyens pour dénoncer la grande pauvreté ? Alors, il y a ces agrégations. Vous avez évoqué les gilets jaunes
tout
à l'heure.
C'est ça ce que j'allais vous dire. Ouais. Voilà, il y a des agrégations. Vraiment, dans ce mouvement, on trouvait beaucoup de mécontentement, le fait d'être exclu. Mais par exemple, par rapport au pouvoir d'achat, vous savez, ça se retrouve aussi parce que les gilets jaunes, les gens qui étaient sur les ronds-points, souvent ils étaient là parce que justement, dans leur commune, dans leur petite ville, dans le, souvent c'est, on parlait de centres périurbains, donc ni vraiment la ville, ni encore la campagne, des gens qui viennent de là, et c'est quoi tous ces endroits, et notamment aussi bien sûr les périphéries dont on parlait tout à l'heure, aussi les banlieues dites difficiles, les fameux quartiers prioritaires, eh bien qu'est-ce qu'on constate partout dans ces différents endroits pour des raisons diverses, le fait que les services publics n'y sont plus, ou alors ils sont totalement dégradés. Or, qu'est-ce que c'est que les services publics? Vous savez, là, c'est une formule assez célèbre. Hein. Les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien, ou en tout cas de ceux qui ont peu. Et donc, tout ça, bah, quand on voit que tout ça se dégrade ou s'éloigne, bah, ça crée de la colère. Et c'était l'un tout cela a été assez documenté. C'était l'un des aspects, mais en même temps, c'était multifactoriel, les gilets jaunes. Mais ce côté-là apparaissait. Vous avez cette revendication, donc le côté pouvoir d'achat. Vous avez quand même aussi beaucoup ça en filigrane, ou même plus qu'en filigrane, dans les mobilisations étudiantes. Alors c'est vrai qu'elles sont peut-être pour des motifs un peu plus spectaculaires, hein, beaucoup plus politiques, comme par exemple le Free Palestine des derniers mois. Mais sinon, vous avez des mobilisations quand même assez constantes sur ce plan-là.
Oui,
sur
des... les associations. Bon, mais c'est vrai que les étudiants n'ont jamais autant frappé aux portes des associations.
Exactement. Oui, mais même quand ils se manifestent, il y a ça aussi comme préoccupation. Maintenant, vous avez raison, c'est vrai qu'il n'y a pas des grandes manifs pour le pouvoir d'achat, comme on en a pu en voir vraiment d'énormes fin 2023, au moment de la réforme des retraites, pour défendre la retraite telle qu'elle était avant la réforme d'Elisabeth Borne. Bah là, il y a eu des cortèges répétés et qui rassemblaient des millions de personnes. Donc ça, non, mais pourquoi? Aussi parce que les populations qu'on vient de décrire, ils ne sont pas vraiment organisées. Et puis finalement, vous avez autre chose à faire. Quand votre préoccupation principale, c'est de joindre les deux bouts, c'est vraiment de comment vous allez finir le mois, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément disposé, ni n'avez d'ailleurs le temps ou l'occasion d'aller manifester, de vous organiser. C'est d'ailleurs aussi pour ça, tout à l'heure, vous posiez la question de pourquoi est-ce que tout cela paraît passer un peu au second plan des préoccupations politiques actuelles, aussi pour cette raison, c'est que pour les politiques, ils n'ont pas un interlocuteur immédiat à traiter. En plus, bien souvent, plus vous êtes en précarité, plus vous êtes pauvre, pour être clair, et moins vous êtes inséré dans le jeu de la citoyenneté, moins l'abstention, par exemple, touche énormément ces catégories de la population. Donc c'est vrai que du coup, ce n'est pas adressé comme sujet, comme problème, par les politiques, en tout cas insuffisamment. Donc ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens. D'un côté, une revendication qui, en tant que telle, apparaît surtout dans les sondages et non pas dans des cortèges dans les rues. Encore que, hein, y a quand même des occasions assez rituelles. J'allais dire que quand vous défilez le 1er mai, c'est aussi avec cette banderole, même si elle n'apparaît pas en tant que telle physiquement, mais en tout cas cette pensée forte du pouvoir d'achat.
Oui, il y a par exemple jamais eu de manifestation pour les personnes sans-abri, pour les personnes qui n'ont pas de toit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en France, et pourtant c'est un véritable drame. Et ça ne s'arrange pas, malgré les promesses de chaque président de la République qui, à chaque fois, promettent qu'il n'y aura plus de personnes sans-abri sous son mandat.
Éradication de la pauvreté, voilà. Je crois que c'était Lionel Jospin, quand il était Premier ministre de la cohabitation, lui avait promis, je crois qu'il n'y aurait plus un SDF dans les rues. Enfin, oui, vous avez raison, ce sont des promesses, des engagements qui reviennent régulièrement.
Les dépenses contraintes, les dépenses liées au logement, vous l'avez évoqué, liées à l'énergie. Les dépenses liées à l'énergie risquent d'augmenter dans les mois à venir si la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Voilà, c'est ça, mais d'une manière particulièrement importante. Et est-ce que l'État aura les moyens de faire face à cela et de faire face à une éventuelle crise sociale aussi?
Mais bien sûr, mais c'est bien son dilemme actuellement, là, quand on est au plus fort. Peut-être que ça grimpera encore, malheureusement, mais en tout cas, dans le cadre de cette crise. Oui, alors, il pourrait avoir des moyens. Il y a d'ailleurs des leviers qu'il a déjà actionnés, donc au moment de la précédente crise, Ukraine 2022. Ces moyens, c'est des aides spécifiques, comme le chèque énergie qui avait été mis en place à ce moment-là. Mais le problème, c'est que ça coûte évidemment des dizaines de milliards. Le chèque énergie, c'était de l'ordre de plusieurs dizaines. Alors, ce sont des mesures qui, dans un premier temps, marchent, mais qui ne sont pas extrêmement ciblées, parce que ce chèque énergie, c'est-à-dire cette ristourne, très concrètement, sur le prix du litre d'essence à la pompe, finalement, tout le monde en profite. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs actuellement, différents partis, notamment le PS d'Olivier Faure, proposent un chèque beaucoup plus ciblé qu'il ne l'a été par le passé. Vous avez aussi d'autres mesures qui sont brandies hein, par les uns les autres, notamment par Marine Le Pen, qui avait déjà fait cette demande d'ailleurs en 2022, dans la précédente crise, qui est d'abaisser les taxes et la fiscalité, la TVA propre au carburant, de l'abaisser de 21% telle qu'elle est habituellement à 5,5%. 5,5%, c'est la taxe qui est appliquée sur les produits de première nécessité. Donc il y a cette demande. Mais non, pour l'instant, le gouvernement ne veut pas en entendre parler parce que tout simplement, c'est un gouvernement dont les caisses sont vides, hein, comme avait dit Fillon il y a quelques temps, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Il parlait des temps en faillite.
Hein, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai. La dette est abyssale. Le budget vient d'être bouclé à grand mal, mais sans évidemment les économies, les réductions de déficit qui auraient dû normalement être menées. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai que pour l'instant, le gouvernement ne veut pas rentrer dans ces solutions. En réalité, il mise sur une crise, sur une guerre qui ne serait pas trop durable, mais il ne veut pas jouer de ses armes fiscales, ni même pour l'instant du chèque énergie. Pour ces raisons-là, parce que la France, d'une part, n'en a pas les moyens. Néanmoins, c'est vrai que c'est vraiment une question primordiale. On l'a vu, hein, on entend souvent actuellement des témoignages, par exemple, de professions qui ont vraiment besoin de circuler avec leur voiture. Et donc, j'entends des témoignages d'infirmières, par exemple, qui, pour leur tourner vers leurs patients, les gens qu'elles soignent, utilisent, alors surtout évidemment dans des zones rurales ou semi-rurales, utilisent forcément leur voiture. Et évidemment que le prix de l'essence pèse énormément sur leur possibilité.
La guerre qui suscite une inquiétude immense, bien entendu, dans les régions concernées au Moyen-Orient et qui suscite une inquiétude liée à l'aspect financier, essentiellement en France. C'est aussi un élément à noter. Vous avez rappelé que nous étions en période d'élection municipale. Hein, les citoyens français étaient appelés à voter dimanche dernier. Ils voteront dimanche prochain pour le second tour. La pauvreté, la grande pauvreté, sera-t-elle l'un des sujets principaux de la présidentielle dans un peu plus d'un an? Je ne vous parle pas du pouvoir d'achat, qui bien entendu sera un sujet important, mais la question de la lutte contre la grande pauvreté.
C'est une question, vous avez raison de faire le distinguo avec le pouvoir d'achat très certainement, parce qu'on l'a vu, hein, donc sécurité, pouvoir d'achat, voilà, c'est eux qui trustent les deux premières places dans cet ordre-là ou inversement. Mais la grande pauvreté, beaucoup moins. Néanmoins, il faudrait que ce soit vraiment dans les programmes des différents candidats. Bon, a priori, souvent, il est associé à la gauche, hein, que ce soit la gauche assez classique, hein, les partis gouvernement, PS, que ce soit la gauche plus radicale, hein, LFI. C'est vrai qu'on peut quand même penser que ce sera dans leurs préoccupations. Néanmoins, la pauvreté, ça concerne tout le monde. Donc on a parlé tout à l'heure du plan Macron, le pouvoir d'achat. Donc tout ça, oui, ça y sera. Ce qu'il faudrait vraiment, notamment, c'est qu'il y ait une grande ambition chez les uns, chez les autres, sur le logement. Parce que c'est ça vraiment la question qui mine le plus les Français, les citoyens, les difficultés à la fois pour eux, pour leurs enfants. Et en plus, c'est vraiment un engrenage, hein, parce que vous avez beau avoir trouvé un emploi, si vous n'avez pas le logement qui va avec, vous ne pouvez pas assurer votre emploi. De même que les liens entre la qualité du logement, mais la qualité, je veux dire, vraiment minimale, au moins qui est ce qu'il faut pour pouvoir y vivre et normalement et y travailler, mais ça joue aussi, on le sait, beaucoup sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire que des enfants qui arrivent à l'école alors que chez eux, tout simplement, c'est juste invivable. Donc ça, c'est vraiment un sujet dont doivent s'emparer les différents candidats.
Une question fondamentale, en effet, bien entendu, c'est celle du logement. Cette émission consacrée à Emmanuel Macron, son éventuel échec sur la question de la pauvreté, il y avait bien entendu un point d'interrogation. Si vous deviez faire un résumé en une phrase, la principale erreur politique commise sur ce sujet par Emmanuel Macron depuis 2017, depuis son premier mandat.
Pour moi, c'est un conteste. C'est justement au tout début. C'est la mesure sur les APL, hein, les aides publiques au logement, la l'aide publique au logement qui a été réduite d'autorité comme ça, d'entrée, dès le premier été du quinquennat. Vous savez, elle avait été réduite de 5 euros. Et donc, baisser les APL, s'attaquer aux APL, ça a été vraiment l'erreur du début. Bon, après, si vous la joignez, en effet, à l'assouplissement du marché de travail, à diverses mesures qui ont donné à Emmanuel Macron cette image, vous savez, qui lui a collé à la peau quand même, hein, de président des riches. Parce qu'au même moment, au moment où il supprimait, enfin pas il supprimait, où il réduisait les APL, au même moment, bah, il supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune, hein, donc la fameuse ISF. Il mettait en place la flat tax, c'est-à-dire la taxe assez favorable pour les actionnaires. Et c'est comme ça qu'est venu non seulement président des riches, mais rappelez-vous la saillie de son prédécesseur François Hollande, et qui avait vraiment une dent contre lui. François Hollande, il était interrogé, je ne sais plus dans
sur
quelle
Canal
émission.
Plus, oui.
Voilà, sur Canal+, on l'interroge. Mais alors, on dit que Macron, c'est le président des riches, c'est vrai. Et François Hollande, assez matois, avait pris son temps, puis a répondu « Non, c'est pas vrai, c'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. » Et ça lui a collé à la peau. Donc, c'était l'erreur fondamentale, pour moi, politique, elle est vraiment là, début 2017. Le plan pauvreté dont on a parlé, c'est 2018, c'est déjà trop tard.
Merci beaucoup, Henri Vernet.
Merci à
vous. Vous êtes journaliste politique, chroniqueur notamment chez France Info, vous êtes aussi écrivain. Fin de votre émission Coulisses politiques avec Henri Vernet. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.